Chapitre 4. Le chemin de la foi. Car tu as délivré mon âme de la mort, ne garderais-tu pas mes pieds de bronchée pour que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants? Psaume 56, verset 13. L'homme pieux du psaume 56 se trouvait en opposition à des ennemis qui lui faisaient la guerre tous les jours, tordant ses paroles, observant ses pas et guettant son âme. Versets 2, 5 et 6 du psaume 56. En présence de cette opposition, le psalmiste se tourne vers Dieu et se confie en lui, versets 1 et 3. En conséquence, il est délivré de l'ennemi, réalise que Dieu est pour lui et il est mis en liberté pour marcher devant Dieu dans la lumière des vivants, versets 9 et 13. Les jeunes croyants à Thessalonique étaient passés en leur temps par des expériences très semblables à celles du psalmiste. Comme le chapitre 3 nous l'a appris, ils avaient traversé des afflictions et des tribulations par lesquelles l'ennemi avait cherché à les faire sortir du chemin de la foi et à les inciter à retourner dans le monde. Chapitre 3, versets 3 et 5. Dans leur épreuve, ils s'étaient tournés vers le Seigneur et avaient tenu ferme dans le Seigneur face à tous les assauts de l'ennemi. Chapitre 3, verset 8. Soutenus par le Seigneur et délivrés du tentateur, ils avaient été rendus libres de marcher devant Dieu dans la lumière des vivants. Ainsi, l'épreuve de la foi, placée devant nous au chapitre 3, prépare pour le chemin de la foi, placée devant nous au chapitre 4. Dans ce chapitre 4, l'apôtre nous enseigne donc comment nous devons marcher et plaire à Dieu. Quatre grandes qualités morales sont nettement placées devant nous comme caractérisant le chemin de la foi. Tout d'abord, la sanctification devant Dieu, versets 1 à 8. Ensuite, l'amour les uns envers les autres, versets 9 et 10. Troisièmement, la justice envers ceux de dehors, versets 11 et 12. Enfin, la consolation au vu de la venue du Seigneur, versets 13 à 18. Le chapitre présente ainsi un beau tableau de la compagnie chrétienne selon le bon plaisir de Dieu, une compagnie de croyants marchant dans le chemin de la foi, allant à la rencontre de Christ en l'air et marquée par la sanctification, l'amour, la justice et la consolation de l'espérance. Une compagnie de personnes en contraste frappant avec le monde alentour marqué par la convoitise, la haine, la corruption et l'absence d'espérance. Versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Fin de citation. L'apôtre commence cette partie de son épître en rappelant à ses croyants qu'ils avaient appris de lui comment ils devaient marcher pour plaire à Dieu. Ils l'avaient appris à la fois par ses instructions et par sa manière de vivre, chapitre 2, versets 10 et 11. Maintenant, il les supplie que, le temps passant, leur marche soit de plus en plus pour le plaisir de Dieu. Le rappel que c'est un commandement direct du Seigneur Jésus souligne avec insistance l'importance de cette marche pratique. Tout en nous réjouissant des privilèges que la grâce nous a conférés, nous devons veiller à ne pas nous relâcher dans la pratique qui doit caractériser ceux qui ont été tellement bénis. La vérité qui nous annonce nos bénédictions en tant que croyants nous enseigne aussi comment marcher d'une manière agréable à Dieu. Voir Tite 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Versets 3 à 8. La sanctification devant Dieu. Citation de l'Écriture. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu, que personne ne circonvienne son frère ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Fin de citation. La première qualité qui devrait marquer ceux qui professent le nom de Jésus et marchent dans le chemin de la foi est la pureté personnelle. Dans le système païen d'où ces convertis avaient été appelés, non seulement les convoitises de la chair étaient poursuivies sans honte dans leur vie de tous les jours, mais leur religion dépravée déifiait ces convoitises. Ils étaient entourés par un système idolâtre qui glorifiait la convoitise et dans lequel les immoralités les plus grossières faisaient partie du rituel des temples. Dans ces jours de la fin, nous sommes entourés par la profession corrompue de la chrétienté qui retourne rapidement à la grossièreté du paganisme avec le mal supplémentaire qu'elle revêt la forme de la piété. Voir 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Si donc ces exhortations et ces avertissements étaient alors nécessaires, ils sont non moins de la plus grande importance en ces derniers jours difficiles. Le danger maintenant, comme alors, est qu'étant entourés par un monde profane qui affiche ouvertement sa honte, nous devenions presque inconsciemment indifférents ou légers dans nos pensées relativement au mal. Si donc nous voulons marcher d'une manière agréable à Dieu, il nous est clairement dit que la volonté de Dieu est que nous marchions dans la sanctification pratique, ou sainteté pratique, nous abstenant de la convoitise et tenant nos vases humains comme mis à part pour des usages honorables et non pas simplement pour la satisfaction de mauvaises passions comme le font ceux qui ne connaissent pas Dieu. De plus, nous sommes avertis de peur que la chair, profitant des relations libres et heureuses à l'intérieur du cercle chrétien, se permettent de tolérer l'impureté dans nos relations sociales les uns avec les autres. Le Seigneur vengera tout tort de ce genre fait à un frère. Dieu nous a appelés à la sainteté. Céder, donc, à ces passions grossières n'est pas seulement pécher l'un contre l'autre, mais c'est mépriser Dieu et ignorer le Saint-Esprit qui nous a été donné. Versets 9 à 12. Citation de l'Écriture. Or, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre, car aussi c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus et à vous appliquer à vivre paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez honorablement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Fin de citation. Au verset 9 et 10, nous avons l'amour les uns envers les autres. Après nous avoir mis en garde contre la convoitise qui conduit au péché contre Dieu et au tort l'un contre l'autre, l'apôtre nous exhorte à nous aimer les uns les autres. La convoitise est le contraire même de l'amour. La convoitise est la satisfaction du moi dans la recherche de notre propre plaisir, y compris au détriment des autres. L'amour est l'effacement du moi dans la recherche du bien des autres. Sachant que la compagnie chrétienne ne peut vraiment vivre que dans une atmosphère d'amour, l'apôtre voulait que ces jeunes convertis, et nous-mêmes, apprécions la grande puissance de l'amour. Il avait déjà reconnu avec joie leur travail d'amour, chapitre 1, verset 3, il leur avait rappelé son amour pour eux et de cette manière les avait introduits dans un cercle d'amour, chapitre 2, versets 17 et 18. Il priait pour que le Seigneur les fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous, chapitre 3, verset 12. Maintenant, après avoir entendu les bonnes nouvelles au sujet de leur amour, chapitre 3, verset 6, il les exhorte à abonder encore plus en amour, verset 10. Dans le dernier chapitre de l'Épître, l'apôtre encourage les saints à revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et à estimer très haut en amour ceux qui travaillaient parmi eux. Chapitre 5, versets 8 et 13. L'amour est le lien de la perfection, liant les saints ensemble pour manifester Christ. Quelles que soient les autres qualités qu'ils possèdent, si l'amour manque, il n'y aura pas de véritable manifestation de Christ, car les propres paroles du Seigneur sont « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Jean 13, verset 35. Au verset 11 et 12, nous avons la justice envers ceux du dehors. Nous devons marcher justement et honorablement envers ceux qui sont au dehors du cercle chrétien. Dans ce but, l'apôtre dit de vous appliquer à vivre paisiblement, à faire vos propres affaires. Il est naturel pour un homme du monde de prendre part aux affaires du monde, même celles qui n'ont qu'un intérêt local. Le chrétien, se souvenant qu'il est appelé hors du monde, s'efforcera sincèrement de lutter contre cette tendance naturelle et poursuivra tranquillement son chemin, évitant autant que possible les questions et controverses qui occupent le monde alentour. Nous avons à travailler de nos propres mains, à agir honnêtement dans nos relations d'affaires afin de pourvoir à nos besoins journaliers. Il y a bien ceux, comme nous le savons de l'Écriture, chapitre 5, versets 12 et 13, qui se donnent à l'œuvre du service de la parole, mais évidemment la pensée de Dieu pour les siens est, de manière générale, qu'ils demeurent dans leur vocation terrestre, s'ils peuvent le faire avec Dieu. Versets 13 à 18. La consolation au vu de la venue de Christ. Citation de l'Écriture. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Fin de citation. Non seulement la voie chrétienne doit être marquée par la sanctification, ou sainteté, l'amour et la justice, mais elle doit être aussi réjouie par la bienheureuse espérance du retour du Seigneur. Au moment où l'apôtre écrivait aux saints de Thessalonique, un nuage avait assombri leur espérance par ignorance de la vérité. C'est peut-être la raison pour laquelle, à son retour, Timothée ne fait pas mention de leur espérance dans son rapport, mais seulement de leur foi et de leur amour. Chapitre 3, verset 6. L'apôtre écrivait pour dissiper ce nuage. Nous faisons bien de prêter attention à la parole de l'apôtre, car, dans sa réponse à leur ignorance, l'apôtre donne instruction à l'Église pour tous les temps au sujet de la grande distinction entre la venue du Seigneur pour ses saints et la venue du Seigneur avec les siens. Ces saints avaient bien été mis au courant, par l'enseignement de l'apôtre, de ce que le Seigneur allait revenir sur terre pour introduire son règne de gloire et de bénédiction. Ils avaient été convertis pour attendre des cieux son Fils. Chapitre 1, verset 10. En attendant, une partie des leurs s'était endormie, et il leur était venu à l'esprit que cela ne serait pas là pour rencontrer le Seigneur lors de son retour en gloire. Apparemment, ils n'avaient pas de doute quant à leur présence dans le ciel, mais si Christ était dans la gloire et que les corps des saints endormis étaient dans la tombe, comment pourrait-il être ici pour accueillir le Seigneur à son retour pour régner avec lui? C'est la difficulté à laquelle l'apôtre répond. Il dit d'abord à ses croyants qu'il n'y a pas lieu de s'affliger à l'égard de ceux qui sont endormis, comme le sont les autres qui n'ont pas d'espérance. Il dit « Si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. » Leur avenir a déjà été montré dans la personne de Christ. Il a été mort, et eux de même sont morts. Il est ressuscité, et eux de même le seront. Et étant ressuscités, ils viendront avec lui. Alors que l'apôtre introduit la mort et la résurrection de Jésus comme décrivant ce qui sera vrai pour le croyant, il est à remarquer qu'il dit « Jésus mourut » quand il parle du Seigneur, tandis qu'il dit « ceux qui dorment » quand il fait référence à la mort du croyant. Le Seigneur a dû affronter la mort à notre place dans toute son horreur comme le salaire du péché, mais pour le croyant, mourir, c'est entrer dans le repos par l'endormissement. L'apôtre a ainsi clairement déclaré que la mort du croyant ne rabaisse en aucune manière l'espérance du chrétien. Il montre qu'à la fois les saints endormis et les saints vivants viendront avec Christ pour régner. Au verset 15 à 18, l'apôtre est ainsi conduit à nous instruire sur le grand mystère. Pour que nous puissions venir avec Christ, le Seigneur doit premièrement venir pour les siens. Étant donné que tous viendront avec Christ, ceux qui restent jusqu'à la venue du Seigneur n'auront aucun avantage sur ceux qui se sont endormis. Les saints vivants ne devanceront pas les saints endormis dans la jouissance des bénédictions du royaume. Cette grande vérité de la venue du Seigneur pour ses saints est introduite avec l'assurance que l'apôtre parle par la parole du Seigneur. Il nous est dit ensuite comment le Seigneur viendra pour nous. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Comme il l'avait déjà dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. » Jean 14, verset 3. Ensuite, nous constatons que s'il est dit qu'il descendra du ciel, il n'est pas dit qu'il descendra sur terre. Quand il viendra pour ses saints, il ne viendra qu'en l'air. Il vient avec un cri de commandement, repris par l'archange qui, apparemment, sonne la trompette de Dieu. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur en l'air, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles, dit l'apôtre. Dans nos deuils, nous nous consolons souvent les uns les autres en disant que notre bien-aimé est absent du corps et présent avec le Seigneur. C'est heureusement vrai. Mais l'apôtre passe par-dessus cet état intermédiaire et nous console en disant que nous serons tous ensemble quand le Seigneur viendra pour nous.